Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à Alan Wassalan. C'est le goût du monde, les goûts du monde. Chaque semaine, le récit de cuisine, de plats, de saveurs partagées. En dépit des frontières et en dépit des conflits, la cuisine rassemble et raconte comme nul autre la culture et l'histoire d'un peuple. C'est la langue que vous avez choisi de chanter. Intarpoub, bonjour.
Bonjour.
Pour transmettre et partager l'héritage de votre terre, vous êtes palestinienne, vous êtes cuisinière, traiteur, chef à domicile. Vous vivez et cuisinez aujourd'hui à Paris après avoir vécu dans bien des pays du Levant. Quel a été votre parcours un petit peu déjà ?
Je suis née à Koweït. J'ai grandi un peu à Amman, Jordanie, à Hébron, en Palestine. Et puis le Qatar, les Émirats Arabes Unis, à Dubaï et à Abu Dhabi. Et puis encore une fois à Amman, Jordanie. J'habitais presque partout
dans la région.
Voilà.
À Paris, vous êtes chef à domicile et vous transmettez cette cuisine palestinienne qui est la cuisine de votre âme, c'est ce que vous dites, avec Bandora. Alors Bandora. Ça veut dire tomate. Alors on pourrait s'interroger sur le choix de Bandora comme nom. Pourquoi vous avez choisi Bandora ?
C'est une histoire un peu drôle. Depuis que j'étais toute petite, j'adorais les tomates. C'était pour moi mon fruit favori. Et je faisais un plat palestinien, paysan, qui s'appelle Light Bandora. C'est un plat pauvre de tomates frites ou sautées à l'ail, piment vert, menthe fraîche, et ça se mange avec le pain traditionnel palestinien, le tabboun. Il y a 2 ans, j'avais envie de lancer mon projet de pop-up restaurant.
Donc c'est un restaurant un peu qui...
Éphémère,
qu'on peut créer une fois par mois, 3 fois par mois, éphémère.
Voilà. Et je pensais à Bandora. Je pensais à l'appeler aussi Meramie. Mais Meramie, c'est le sage.
C'est la sauge.
La sauge aussi est très symbolique aussi pour les Palestiniens. Donc j'étais un peu...
Partagée entre les deux.
Oui. Et puis j'ai lu un livre qui s'appelle « Les quatrièmes murs ».
De Serge Salandon.
Oui. Et il raconte une histoire d'un checkpoint au Liban qui existait pendant la guerre civile. Et ce checkpoint s'appelait Bandora parce que les armées arrêtaient tout le monde, leur montrant une tomate. Et leur demandant ce que c'est. Et s'ils disent Bandora...
Ça veut dire qu'ils sont Libanais.
Libanais ou Syriens. S'ils disent Bandora, ça veut dire qu'ils sont Palestiniens. Et ça, c'est un problème.
C'est le début des problèmes.
Oui.
Donc c'est une connotation, c'est certes un goût pour la tomate et une connotation politique dans le choix de votre nom.
Oui, et il raconte aussi, c'est entre deux personnes, un Français, il demande pourquoi les Palestiniens, ils savent que ce checkpoint existe et ils doivent...
Répondre la bonne réponse.
Et pourquoi ils ne disent pas Bandora comme les Libanais. Donc le garçon, il a répondu, il a dit parce qu'ils ont leur fierté. Donc ils disent Bandora.
Malgré le danger, comme une revendication.
Oui, et ça m'a beaucoup touchée. Je ne connaissais pas cette histoire. Nous, dans notre maison, on ne parlait jamais de conflits. Même si mon père était journaliste, mais j'habitais dans une maison très... very pacifiste.
Très pacifique, oui. Très préservée. Du coup, vous étiez où ? Elle est où, cette maison ? Dans quel pays de la région ?
À Amman, Jordanie. La plupart de mon enfance était à Amman, Jordanie, avec toute la famille. Parce que après, mes parents, ils ont séparé et c'était plus la même chose. C'était plus la maison.
Qui est-ce qui vous a appris à cuisiner ? Parce que cette cuisine, elle a une histoire chez vous, elle a des racines. Qui vous a appris et comment vous avez appris à cuisiner palestinien ?
Personne. personne m'a appris. Ils m'ont donné l'inspiration et l'amour pour la cuisine et l'amour de partage aussi. Maman, elle ne voulait pas que je cuisine. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à essayer cuisiner, voilà. Je passais toute la nuit à la cuisine et maman, elle n'était pas du tout contente. Elle croyait que je faisais n'importe quoi, le riz n'était pas bon et elle voulait juste que je mange et apprécie, mais pas perdre mon temps dans la cuisine.
Ça a été une source de conflit alors du coup, parce que souvent c'est avec les mamans, avec les tantes, les grands-mères qu'on apprend les plats qui vont faire les histoires.
Oui,
après.
Oui. Non, maman, elle voulait même pas me donner les recettes. Mais j'ai appris quand même parce que je regardais et je posais beaucoup de questions. Et là, elles sont toutes fières. Ma grand-mère, maman, mes tantes, elles me donnent tous les tips, les recettes.
Les petites indications pour bien réussir. Il y a un plat palestinien. On va dire c'est un plat comme un drapeau en fait, c'est un plat très symbolique. Comment est-ce qu'il s'appelle ce plat et de quoi est-il fait, Intarbou?
Alors, franchement, ça c'est très controversiel. Parce que...
Mince, on commence par une controverse.
En hébron, moi, mon père vient d'Hébron.
Donc dans le sud?
Dans le sud. Et dans le sud, le plat national, c'est soit le edré, qui est un plat de riz et de viande, mais cuit dans un pot de cuivre. Mm-hmm. Et bien sûr, beaucoup de viande d'agneau. C'est les Bédouins, ils mangent costaud. Et pour eux, le mansaf aussi, qui est un plat de riz rond au curcuma. Et la viande d'agneau accompagnée par une sauce de yaourt de brebis. C'est très bon. It sounds bizarre, mais c'est très bon.
Ça ne me paraît pas du tout bizarre. Au contraire, en fait, j'ai la...
Et dans le centre de Palestine, par exemple, Jérusalem, c'est le ma'loube. Le plat le renversé, c'est un plat de riz à la cannelle, aubergine et aussi viande d'agneau. Il y a des familles qui le font avec le poulet. Ça, je veux pas...
Ça, c'est polémique aussi.
Oui.
Poulet
aussi.
Ou agneau.
Et dans le nord, ils mangent le plat paysan emblématique, le msakhan, qui est un plat qui consiste de pain traditionnel, qui s'appelle le taboun. Oignon caramélisé au sumac et pignon de pain frit, poulet à la cannelle et voilà, accompagné des sauces de yaourt et menthe, sauce piquante, la chata.
Avec des piments, alors, du coup?
Avec du piment.
Avec des piments.
Et le nord extrême.
Alors là, on est au-delà du
Galilée,
plateau.
Beaucoup de koub benayé, qui est le tartare, le steak tartare levantin. Agneau cru.
Agneau cru.
Sans gras. Il met beaucoup de pâtes de piment dans le nord, en Galilée. Et des herbes, l'huile d'olive, pignon de pain et de blé concassé.
Et cependant, ça fait penser à un plat libanais, ce tartare.
On ne peut pas vraiment dire ça, parce que quand on parle des plats, on parle aussi des régions. Les Palestiniens du Nord sont Palestiniens du Nord. Et les Libanais du Sud sont des Libanais du Sud. Et si les deux mangent la koub benayé, ça peut être aussi Libanais que Palestinien, c'est sûr.
Je vous propose d'aller à Jérusalem. Bonjour Guilhem Delteil.
Bonjour Clémence.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Par votre métier, puisque vous êtes reporter, vous êtes amené à vous rendre dans les territoires palestiniens, bien sûr, et notamment à Gaza. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette cuisine? Peut-être de l'accueil qui vous est réservé. Je crois que c'est un peu ça que vous retenez d'abord.
Alors, l'accueil, c'est une tradition assez orientale, hein, de manière générale, mais c'est vrai que l'accueil palestinien est très chaleureux, qu'on rentre assez facilement dans les maisons, en tout cas dans les parties un petit peu communes, le salon et la salle à manger, on est facilement invité à déjeuner, à partager un repas. Et ça arrive assez régulièrement aussi quand on est en reportage. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois avant de pouvoir sortir le micro ou alors éventuellement après l'interview, mais souvent plutôt avant de pouvoir sortir mon micro, et bien de devoir passer à table et de devoir partager un repas avec les autres. Et c'est même pas toujours pour le partager avec eux. Il m'est arrivé d'être en reportage à Gaza, par exemple. Dans un camp de réfugiés, je faisais un reportage autour de la pénurie d'électricité, puisqu'à Gaza, les Gazaouis n'ont actuellement plus que 3 à 4 heures d'électricité par jour. Donc j'étais rentré dans une maison pour voir comment ils vivaient avec cette pénurie d'électricité, comment ils s'adaptaient à cette absence d'électricité qui a un impact très fort au quotidien, notamment par exemple les frigidaires ne gardent plus les aliments au frais. Donc les Gazaouis sont obligés de faire leurs courses au quotidien. La maîtresse de maison m'expliquait tout ça. Et là, c'était juste avant de partir. Elle m'a saisi par le bras et elle m'a dit « Maintenant, il faut que tu manges ». Et elle avait déjà mangé, elle n'a pas partagé le repas avec nous, mais c'était juste pour moi, mon collaborateur à Gaza. Elle a préparé un repas juste pour nous à ce moment-là. C'était des keftés de poisson, donc des boulettes. Alors en Cisjordanie, on les a plutôt en boulettes de viande, mais là à Gaza, c'était des boulettes
sûr.
De poisson. Il y a évidemment Hint, vous pouvez échanger, parce qu'à Gaza, on est sur la mer.
Oui, bien sûr. Il faut dire, la semaine dernière, j'ai fait un repas, un dîner, inspiré par mon seule visite à Gaza en
1991.
Et c'était avec toute ma famille après la guerre du Golfe. Et je me souviens très bien la générosité des Gazaouites. On mangeait tout le temps. J'ai des souvenirs des tables énormes, beaucoup de viande, de poisson, des fruits. Même après le repas, ils proposent un autre repas, un plateau de fruits, un plateau de mixed nuts.
Et des noix, des gâteaux aussi, j'imagine. Guilhem Delteil, dans les épices, dans les goûts, est-ce que vous identifiez une épice palestinienne, quelque chose qui évoque pour vous vraiment le goût de ces territoires, le goût de ces endroits où vous vous êtes rendu?
Encore une fois, je dirais que c'est assez oriental, hein, quand même. Ça correspond un peu à tout le pourtour, ou cette partie-là du pourtour méditerranéen.
On est dans une région.
dans une région, exactement. Moi, l'une des épices que j'aime beaucoup, c'est le sumac, qu'on retrouve dans une de mes salades préférées, la fatouche. Notamment.
Et la fatouche, c'est une salade particulière, Hint, ou on met généralement, c'est une salade de légumes tranchés, elle a un aspect ou un goût particulier?
La fatouche est un mot qui consiste de
en deux syllabes, en deux notions, en deux significations.
Fat en arabe veut dire unishred bread.
Guilhem.
Ce sont des croûtons de pain, en fait, qu'on retrouve dans la fatouche.
Oui, exactement. Et ça vient du mot « fat ».
D'accord.
C'est du pain un peu vieux, du coup, qu'on récupère
pain un peu
et
vieux,
qu'on recycle en...
D'accord.
Oui, et « ouch » vient de la langue ottomane. Et cette salade, en fait, est une salade ottomane. Qu'on trouve partout dans le Levant, en Syrie, Liban, Jordanie, Palestine. Et c'est pas une salade traditionnelle palestinienne. Notre salade traditionnelle, c'est la fallahiyya, veut dire paysanne, salade paysanne. Et c'est une salade coupée très très fin, concombre, tomate, menthe, persil, beaucoup de l'huile d'olive, sel, poivre, c'est tout. Et jus de citron, voilà. Et on mange avec le pain aussi.
Avec le même pain que celui qu'on utilise pour le tabloul.
Allah yirham li matou. Enta ana w chiouhti nkhdmou bel gala nta chara chouhada. El Jazair tahia el asima. Nji na jayin dna el aksida fel trik. Dawni lkoum w galou mita. درنا قصيدة قيس السبعة مع الصباح ثلاثة ماتوا احنا خمسة سالمين صرات بينا قصيدة في طريق صابلة الغالي بومجيزة والله يرحمه الغالي ومصطفى كيم السامين
Daouini de Cherar Emiti sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, du raï algérien choisi par notre invité Hind Tarboub, cuisinière, chef de Bandora. Pourquoi ce morceau? Pourquoi est-ce que vous vouliez partager ce morceau, Hind?
Parce que j'aime le raï. Je l'ai découvert à Paris et ça m'a changé la vie.
Ça m'a changé la vie.
Oui.
En tout cas, on a dans la musique comme dans la cuisine, c'est pareil. On a des régions qui se retrouvent, des mélanges qui se font. Et c'est
bien
ça
sûr.
Qui est... Guilhem Delteil, on vous a quitté avec le souma. Qu'est-ce qu'il y a un plat maintenant? Je vous pose la question parce que vous êtes notre témoin à nous. Est-ce qu'il y a un plat que vous retiendrez et que vous aimeriez apprendre à faire pour pouvoir le rapporter ensuite avec vous et le transmettre?
Probablement, en fait, c'est peut-être le premier plat véritablement palestinien que j'ai mangé en arrivant ici. C'est le makloubé dont on parlait tout à l'heure. Ce plat renversé, finalement, oui. Avec du riz, de la viande et un petit peu d'épices. Et pour moi, probablement le plat le plus emblématique, mais il me disait que c'était le plat le plus emblématique à Jérusalem. Et ça doit être mon côté hiérosolomitain qui fait que...
Qui prend le dessus.
Qui prend le dessus, exactement.
Vous m'aviez parlé, je crois, Guilhem, de feuilles de vigne aussi servies chaudes. Et que vous étiez surpris, justement, de cette... Alors voilà, Hind fond en direct dans le studio à l'évocation de ces feuilles de vigne. Est-ce que vous pourriez me raconter déjà quelle a été votre impression et pourquoi vous étiez surpris?
J'étais surpris parce que les feuilles de vigne, c'est un plat qu'on connaît aussi beaucoup sur le pourtour méditerranéen, au Liban, en Égypte. Alors elles sont pas tout à fait toujours pareilles, en Grèce aussi d'ailleurs. Les feuilles de vigne appelées warak aineb ici, ce qui veut dire les feuilles de vigne en arabe, sont
servies.
Bien
dawali aussi. Est-ce que tu as entendu ce mot
dawali? Oui.
Mais c'est quoi, dawali? C'est une autre nomination pour parler de ces feuilles de vigne.
Oui, mais seulement les Palestiniens l'appellent comme
dawali.
Ça. Dawali, oui.
Bandora, dawali. Voilà.
Les feuilles de vigne ici, en fait, ce qui m'avait surpris, moi, c'est qu'elles sont servies, alors, non pas en mezze, pas en petite proportion, avec un peu de hummus, de baba ganoush, ou de moutabal, d'autres choses pour accompagner. C'est en fait un plat principal. Elles sont servies dans une marmite ou dans un plat, mais en grosse quantité. Elles sont chaudes, elles sont chauffées juste avant. Et ça s'en fait effectivement un plat principal que les Palestiniens mangent comme ça. Et du coup, en des quantités beaucoup plus grande que lorsque c'est juste un métier. Ça, c'était une approche un peu
énorme.
Nouvelle pour moi.
Et pourquoi est-ce que ça, c'est justement un plat familial? Est-ce que c'est quelque chose qu'on
oui,
sert?
Oui, oui, oui. C'est un plat comme ma grand-mère paternelle faisait tout le temps. Et elle nous a ramené les feuilles de vigne d'Hébron. Hébron est une ville très connue par...
Pour ses feuilles de vigne?
Oui. Et les vignes et les raisins en général. Donc, elle nous ramenait les vignes d'Hébron à Amman. Et elle nous faisait des warak aineb dawali avec un agneau entier. Et ça, Je pense que c'est le souvenir de ma grand-mère le plus fort. Et c'est quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimerais manger comme le dernier repas. J'ai choisi Dawali de ma grand-mère.
Avant d'aller au paradis.
Oui.
C'est déjà un peu de paradis sur terre. Hintahoubou, je me demandais, qu'est-ce qui peut distinguer cette cuisine palestinienne? Si vous devez vous rencontrer quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, qui n'a jamais allé dans cette région, qui ne connaît pas la Méditerranée, qui ne connaît pas le Levant, comment vous lui décrivez cette cuisine?
C'est tout simplement la cuisine du peuple palestinien. Ça peut être très 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 proche de la cuisine syrienne ou de la cuisine libanaise ou bien la cuisine jordanienne, mais ce qui distingue cette cuisine des autres, c'est voilà, c'est une histoire d'un peuple, c'est la cuisine du peuple palestinien.
Et est-ce que c'est aussi la cuisine d'un terroir? Et donc, des ingrédients qui vont goûter ce terroir. Et il paraît, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Zeytoun, qui vient de sortir, de recettes palestiniennes d'une femme qui est allée visiter, donc se promener en Palestine, et qui dit que l'huile d'olive a un goût poivré, a un goût vraiment particulier. Est-ce que vous diriez ça, vous aussi, de cette huile d'olive?
Oui. L'huile d'olive palestinienne, et a un goût un peu même amer. Et les olives aussi ont un goût amer. Tout le monde, quand je parle de l'huile d'olive palestinienne, personne me croit. Mais quand ils goûtent, ils comprennent que ça a un goût très 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 fort. Il y a des gens qui aiment pas. C'est vraiment très, très spécial. C'est vrai. Oui, c'est
très prononcé.
Oui. C'est, en général, la cuisine palestinienne est un peu relevée. Plus relevée et costaud que la cuisine, par exemple, libanaise. En cuisine, on utilise beaucoup de piment et pâte de piment, la chatta. À Gaza, par exemple, ils mangent les piments en petit déjeuner avec le za'atar et le...
Le za'atar.
Oui.
Alors, Guilhem, vous êtes là. Vous avez aussi aimé le za'atar, bien sûr. Juste parce qu'on va peut-être pas vous retenir pendant des heures, sauf si vous souhaitez rester avec nous. Vous pouvez aussi.
Volontiers.
Ah bah, restez avec nous, alors ça nous fait plaisir.
Je salive à vous écouter.
Bien sûr.
Le za'atar, alors Intma, j'ai demandé à Int de venir avec un ingrédient et un ustensile. Alors l'ustensile, elle ne pouvait pas venir avec parce qu'il s'agissait d'un...
C'est un couteau.
Donc on ne peut pas venir avec un couteau dans un studio de radio. Mais l'épice, et l'ingrédient rapporté est un ingrédient qui signe aussi toute une région. Parlez-moi un petit peu de... Alors je vais le prendre et le sentir. C'est du za'atar. Donc qu'est-ce que c'est que le za'atar? Et quelle est la particularité de celui que vous m'avez rapporté?
Alors c'est un mélange de za'atar de Jenin, la ville de maman. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange d'épices, de sésame grillé, d'origan médicinal, sumac, qui est une herbe...
Donc rouge.
En fait, c'est un fruit séché, rouge, un peu parfumé, acidulé.
Oui, un peu acide, un peu acre même, limite,
oui.
On pourrait penser.
Et sel, poivre, un peu de l'huile d'olive, et c'est tout.
Et le za'atar, c'est à tout moment de la journée, je crois.
Pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout. Alors quand?
Pour nous, c'est le petit déjeuner. Et ça se mange juste comme ça, avec l'huile d'olive. Les Palestiniens, ils trempent le pain dans l'huile d'olive, et puis le za'atar. Alors que les Libanais, ils mélangent, par exemple, ils mélangent l'huile d'olive avec le za'atar.
Sur les galettes, les manouches.
Le manouche, tout le monde fait le manouche. Et il faut bien sûr mélanger, et même il faut mettre l'eau, un peu d'eau, et mélanger avec l'huile d'olive et za'atar pour le manouche, pour que ne ce soit pas sec. Et voilà, c'est le za'atar, c'est le za'atar le matin, en petit déjeuner. Ou bien sur le karek jérusalemite, le pain. Je ne sais pas si,
si Guilhem connaît.
Guilhem connaît.
Bien sûr, le cake qu'on retrouve effectivement dans les ruelles de la vieille ville ou de Jérusalem-Est, un pain avec du sésame dessus.
Oui.
Et un peu ça... fumé aussi, qui a un goût un peu fumé.
Oui, ça me manque. Ça, j'ai vraiment des bons souvenirs de... Et ils vendent ça dans la rue, c'est un street food.
D'accord, donc sous forme de pile, on peut les trouver
oui,
comme ça.
Oui, c'est un pain.
Il y a une forme d'anneau en fait, d'anneau ovale. Et on voit effectivement dans la rue des vendeurs qui ont des chariots sur lesquels s'empilent tous les cakes qui vendent et ils réapprovisionnent assez régulièrement dans la journée.
Moi je vous propose de prendre le petit déjeuner là. Alors je vous propose de nous asseoir à la table de Juliette, parce que Juliette et Muriel Paradon, qui étaient à Jérusalem avant vous Guilhem, eh bien elles ont préparé un petit déjeuner. Alors je vous propose de le découvrir.
Ce plat s'appelle faté. Alors, on trempe le pain.
Alors, vous le faites vous-même?
Je l'ai fait moi-même. C'est la pâte à pain normale. Sauf qu'elle est cuite sur des pierres. Voilà. Le pain kaboul. Avec le jus du pois chiche, le citron et l'ail. Il faut que ça trempe. Puis, on met le pois chiche qui a été haché dans le mixeur. Là, le hummus. Sur le pain et sur le jus. Et après, on ajoute la viande cuite un peu avec de l'huile. Ça, c'est du veau haché. On l'ajoute ensuite sur le pois chiche et sur le pain et sur tout ce que j'ai mis là. Et on met des amandes pilées et grillées. Voilà, ça, c'est un plat qui s'appelle le faté.
C'est typiquement palestinien.
Palestinien. Ça, c'est, on peut le manger le matin et ça y est, toute la journée, on n'a plus faim.
Vous faites ça tous les jours au
petit-déjeuner? Non, non, c'est quand on a le temps, parce que ça prend du temps.
Alors, quand on n'a pas le temps, moi, je vois qu'est-ce que c'est
oui,
que ça.
Oui, ça, c'est du manaïch.
Manaïch.
Ça, c'est des petits pains avec du zaatar et de l'huile d'olive.
Zaatar, c'est
zaatar.
Ça?
Zaatar, c'est l'origan et de l'huile d'olive.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que les Palestiniens mangent beaucoup le matin?
Chaque jour, presque. Ils le mangent, ils l'achètent avant d'aller au travail. Et le pain, là, on doit le chauffer un peu. Voilà, ça, c'est le four rapide pour la famille le matin.
Alors, voilà. On va peut-être amener
le faté.
Voilà, qui complète une belle table. À part le faté sur la table, décrivez-moi ce qu'il y a.
Falafel.
Alors, falafel, les petites boulettes de pois chiche.
Oui.
C'est bon.
L'omelette de légumes, l'omelette à la menthe et persil.
L'omelette palestinienne.
Oui.
Du labané.
Du labané.
Une sorte de yaourt fromage.
Oui.
Et puis, essentiel.
Les olives vertes et noires. Toujours les olives, oui. Le matin, toujours les olives. Et voilà. La table est faite. Goûtez de tout ce que vous voulez.
Ça a l'air très très bon.
Mais oui, ça a l'air très très bon. Les olives, évidemment, elles ont une place. On a commencé à parler un petit peu de l'huile d'olive et des olives. C'est incontournable. Alors, si on prend une table et on prend les indispensables, on aura donc des olives, on aura du yaourt peut-être, non?
Bien sûr. Yaourt.
Mais
olive.
C'est pas un yaourt comme les autres. C'est un yaourt un peu particulier, plus crémeux. Il est comment ce yaourt?
Et c'est moins crémeux en fait. C'est moins crémeux que le yaourt à la grecque. Et voilà, les the pickles, comment dire, pickles.
Des pickles, en fait, c'est des oui, c'est ça, c'est des légumes tranchés qui sont un peu acides, saumurés.
Oui.
Donc les pickles.
Les olives, la shatta, qui est la sauce pimentée palestinienne. Et on le fait avec des piments crus et pas des piments grillés comme la harissa. C'est un peu différent. Et
moi j'attends parce que depuis le début de cette émission, il y a quand même quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, alors que normalement on en parle tout de suite.
Oui.
Là, c'est le houmous.
C'est le houmous.
Il n'est pas là encore, ce houmous.
Il n'est pas là. Il est
non.
Pas là.
Et le pois chiche, on n'a pas prononcé encore.
Non, mais franchement, tout le monde croit que nous on mange que de houmous, alors que on mange presque pas. De hummus. On ne le fait pas. Ma grand-mère n'a jamais fait le hummus à la maison. C'est pas un plat de maison. C'est un plat de street food.
Un plat de restaurant.
Pas restaurant, cafétéria.
C'est peut-être ça la distinction alors, justement. Peut-être que le houmous, qu'on a l'habitude de, comme vous venez de le dire, qu'on imagine être tout de suite sur la table, en fait, la distinction, c'est que non. Cette cuisine-là, elle est bien plus variée. La cuisine palestinienne, elle est faite d'autres.
Oui, oui. Il y a des catégories. Il y a la cuisine bourgeoise palestinienne, comme la maloube, les feuilles de vigne farcies, par exemple. Il y a des plats paysans, comme la msakhan, le plat de tabouine avec les oignons caramélisés et poulet.
Ça, c'est msakhan, c'est ça?
Msakhan. Et ça veut dire réchauffé, parce que ça, on ne le réchauffe jamais. Et
il y a. Mjadara.
Et la mjadara de la cuisine pauvre. Et.
Mais qu'est-ce que c'est que la mjadara? Parce que ça, c'est fait de quoi, ce plat?
Mjadara veut dire varicelle.
Oui, la varicelle.
Parce que c'est un plat de lentilles et soit riz basmati, soit du blé concassé, le borol. Mais la recette traditionnelle est avec du blé concassé. Et c'est un plat très vieux et biblique, je pense. C'est un des plats historique de toute la région.
De tous pourtour méditerranéen.
Oui.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Hey. Can you put my voice up? مخيمات لاجئين افريقيا لا فلسطين ايد وحدي شابين صرخه وانقلاب مخيمات لاجئين بنقول لبابلون رغم القاهر احنا هون نرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون والتحيه للصوفيه تحيه للموليه تحيه للبيئه من جميع انواع الروحانيه تحيه للشعب الراستفاريدي صرخه وانقلاب مخيمات
Holy Land de 47 Soul, programmation musicale signée Hind Tarboub. Aujourd'hui, c'est notre invité Hind, à la voix douce comme le miel, ça vous l'avez noté tous, j'imagine. 47 Soul, alors ils sont quatre, ils sont palestiniens, ils se sont rencontrés sur le net avant de se rencontrer en vrai à Amman, en Jordanie. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez partager ce groupe et ce message? Parce que le titre de la chanson, c'est Toute terre est sacrée.
Oui.
Quelle que soit la terre.
Parce que j'y crois. Que j'y crois et je veux que tout le monde y croit. Every land is a holy land. Every people is the promised people.
Hind Tarboub, cuisinière à Paris aujourd'hui, au terme d'une longue pérégrination dans les pays du pourtour méditerranéen et du Levant. Vous transmettez justement cette cuisine palestinienne. Si on s'arrête deux minutes sur la cuisine de Jérusalem, c'est une cuisine bien singulière et bien particulière. Vous diriez, est-ce qu'il y a déjà un plat qui en est l'illustration de cette cuisine?
La cuisine jérusalémite, Alors, c'est influencé par beaucoup de monde, par les Arméniens, par les Arabes, par
les Ottomans.
Les Ottomans, bien
sûr. Les Grecs également un peu.
Oui, ça a été la cuisine jérusalémite, celle que je connais, moi comme palestinienne. C'est une cuisine déjà variée et multi-ethnique.
Est-ce que c'est une cuisine en fait ancestrale, donc qui s'est construite au fur et à mesure des arrivées, des immigrations, des migrations
Alors, après 1948, je ne sais pas. Je ne connais pas cette cuisine. J'aimerais découvrir, bien sûr. Il y a un peu de tout, il y a un peu de l'Afrique du Nord, un peu de l'Europe de l'Est, un peu partout dans le monde. Mais pour moi, pour une palestinienne, la cuisine jérusalémite, c'est la cuisine palestinienne jérusalémite.
Est-ce que la cuisine palestinienne, elle a sa place aujourd'hui encore? Parce que dans la manière dont on parle de cette cuisine, quand on lit notamment les livres de Ota Motolenghi, oui, ce cuisinier qui vit à Londres et qui a permis aussi de jeter un nouveau regard sur Jérusalem et sur les cuisines palestiniennes et israéliennes, est-ce que vous avez l'impression que la cuisine palestinienne est à sa juste place ou présentée de la juste manière aujourd'hui?
Je pense que oui. Je pense que oui. Avant, la cuisine palestinienne n'existait pas. Et là, avec ce mélange, je veux dire, la cuisine israélienne devient une cuisine internationale. Mais malheureusement, la cuisine palestinienne est en train de devenir une cuisine exotique parmi
toutes les cuisines que l'on peut trouver.
Je veux dire en Israël. Et voilà, j'ai le livre, j'aime les recettes, j'ai quelques réservations. Et
quelques réserves sur le contenu.
Oui. Même le principe, franchement, de dire, voilà, ça c'est la cuisine jérusalémite, c'est réaliste, bien sûr, ça existe, mais je pense que c'est un peu dur pour moi de l'accepter, de le digérer. Mais c'est comme beaucoup, beaucoup d'autres choses.
C'est comme ça, en fait, c'est la cuisine, c'est le résultat aujourd'hui, comme si on oubliait un petit peu les racines de cette cuisine, de cette région, de ce pays, et du coup, d'un petit peu de la Palestine. Vous, votre cuisine, si vous deviez en dépeindre ou en dessiner en tout cas les contours, c'est une cuisine de la diaspora, c'est une cuisine de l'exil, c'est une cuisine, votre cuisine palestinienne, c'est une cuisine de quoi?
C'est un peu de tout. C'est un peu l'exil, parce que par la cuisine, j'essaie de
vous rapprocher, de garder un lien.
Oui, avec ma Palestine. Et en même temps, j'essaie de préserver et transmettre tout ce qui est héritage. J'essaie de le garder, j'essaie de le protéger, de transmettre avec le monde.
Et ça s'oublie pas au fil des années, en fait. Et cette transmission, elle se fait comment? Oralement? Vous montrez aussi? Ou en faisant goûter, tout simplement?
Il faut juste être naturel. Il faut juste manger palestinien, partager, la manger. Oui, bien sûr, parler et...
Vous aviez une grand-mère, je crois, qui était plutôt du Nord, une du Sud.
Oui.
Donc, votre paternelle. Maternelle, elle, était plutôt sur le bord de la mer, je crois.
J'ai beaucoup de chance grâce à ça. Ma grand-mère paternelle et ma grand-mère maternelle étaient tellement différentes. Et ma grand-mère maternelle cuisinait beaucoup de plats du nord de la Palestine et parce qu'elle venait de Haïfa, et elle cuisinait beaucoup de plats de mer. Et alors que ma grand-mère paternelle, elle adorait l'agneau. Elle cuisinait que la viande d'agneau avec...
La viande, c'est important dans l'assiette?
Très, très. Mais surtout dans le sud.
Mais tout le monde peut en manger ou alors c'est le signe d'un privilège que d'avoir de la viande dans son assiette? Parce que souvent, au fil du temps, on a des légumes, on a des légumes secs, et puis quand on a un peu plus de sous, on a de la viande.
Mais pas en Hébron. En Hébron, même si on est pauvre, il faut absolument manger de la viande et nourrir tout le monde. Mon grand-père, il achetait beaucoup de viande, et il demandait à ma grand-mère de tout cuisiner pour les voisins, pour tout le monde. Et elle a dû, des fois, les garder...
En réserve pour un...
Il était très fâché. Il voulait qu'elle fasse toute la viande, qu'elle cuisine toute la viande pour tout le monde. Donc, il y a de la générosité.
Ça, vous confirmez, Guilhem, parce que vous êtes là, vous entendez. Cette générosité,
je confirme qu'il y a beaucoup de générosité, effectivement. Mais c'est vrai que la viande n'est pas accessible aujourd'hui pour tout le monde sur toute l'étape palestinienne. Le plus souvent, d'ailleurs, quand c'est de la viande, ça va être du poulet, qui est la viande la moins chère. Une amie palestinienne m'a raconté, par exemple, il y a une histoire d'enfance. Alors, elle a un peu plus de 60 ans aujourd'hui. C'est une histoire un peu ancienne. Mais elle me parlait d'un repas de famille traditionnelle du dimanche où il y avait de la viande, alors que le reste de la semaine, ils avaient plutôt tendance à manger des lentilles, qui est vraiment le plat du pauvre, en fait, côté palestinien, les lentilles à Hadas. Un jour, en fait, sa mère n'avait pas pu préparer de viande pour le repas du dimanche. Elle avait servi du Hadas, comme tous les autres jours de la semaine. Et son frère, alors c'était plein, avait fait une grosse colère parce qu'il n'y avait pas eu de viande et que c'était pas du coup le plat du dimanche.
Vous confirmez, Hind?
Oui.
Voilà, au moins le dimanche. Je voudrais savoir, Guilhem, Hint, je ne sais pas si vous êtes des dents sucrées, comme on dit, si vous aimez bien les desserts, mais on peut peut-être terminer aussi cette émission sur un dessert.
Oui.
Alors, on a parlé d'un fromage à Naplouse qui n'est pas un fromage, mais qui est un dessert, Guilhem Delteil, que vous connaissez?
Qui est une grande tradition à Naplouse, effectivement.
Le knafé?
Le knafé, bien sûr.
Alors racontez-nous un petit peu.
On trouve dans toutes les ruelles de la vieille ville de Naplouse.
Donc, comment ça sent, ce knafé? Ça a quel goût, Hind, peut-être?
Ah.
Ou Guilhem, vous pouvez vous aider l'un l'autre.
Je suis traumatisée par le knafé.
Ah.
Dans mon enfance, tous les repas de vendredi,
Se terminait
par le knafé. Et on mangeait beaucoup de knafé, de sirop de... Le knafé, c'est un gâteau de fromage de Naplouse. Donc, c'est le fromage de Naplouse qui est un peu sucré-salé. Parce qu'il garde le fromage dans l'eau douce.
Oui, une eau qui n'est pas salée, une eau. Donc, il garde le fromage dans l'eau.
Oui, et ce fromage a un goût très spécial. C'est pour cela qu'on appelle knafé nablusien. Il faut que le fromage soit de Naplouse. Et puis, semoule, une couche de semoule et...
au-dessus du fromage.
Semoule, beurre grillé au-dessus du fromage. Et puis, le sirop de sucre. À la fleur d'oranger,
c'est léger, en fait. Et pistache. C'est un dessert très léger.
Ah non, pas du tout, parce qu'il met beaucoup de gras de samné baladi, gras de viande.
D'accord. Okay.
C'est très
bon. Il faut se garder un petit peu de place au cours du repas. Quand on sait qu'on a un knafé qui arrive après, effectivement, il vaut mieux se garder un petit peu de place.
Bon, alors quand même, on va avoir quand même des notes d'orange, de fleurs d'oranger, de rose, j'imagine, de la pistache. Je ne sais pas, dites-moi, quel est le dessert qui... si vous aviez des gens qui viennent chez vous à Bandora et qui ont envie de manger un dessert palestinien, vous feriez quoi pour leur faire découvrir?
Je propose le batir jebne, qui est la pastèque, et le fromage de Naplouse, comme une salade. C'est frais, c'est facile à faire, et tout le monde aime.
Et on le trouve en France, le fromage de Naplouse?
On peut le trouver dans les épiceries orientales comme...
Il y en a. C'est Yana, possible d'en voilà. trouver quand on cherche. Oui. Vous nous donnerez les adresses, comme ça on pourra les mettre sur le site internet pour ceux qui nous écoutent et qui se trouvent à Paris.
Bien sûr.
Et comme ça, essayez de refaire ce dessert, parce que évidemment, sur la page internet du Goût du Monde, vous pourrez retrouver certains des plats qu'on a évoqués aujourd'hui et quelques recettes que nous avons partagées. Hint, merci. Merci beaucoup.
Merci.
De vous être arrêté à notre table. On était bien contents de parler de cette cuisine.
Moi aussi.
Qui est une cuisine importante. Guilhem Delteil, vous allez rentrer en France un jour avec, donc, j'ai compris, un knafé dans votre bagage.
Le knafé se déguste sur place, il se déplace difficilement.
Il voyage très mal, mais vous allez emporter avec vous. Qu'est-ce que vous allez rapporter à votre famille quand vous rentrerez?
Des baklawa.
Pardon?
Baklawa? Une baklawa.
De Nazareth.
Une baklawa de Nazareth.
Oui, alors ce que j'ai commencé à produire moi-même, en fait, ce sont des olives. J'ai fait la récolte l'automne dernier. Puis après, il y a tout le processus de préparation des olives, les nettoyer, puis les faire cuire dans le sel avant de les assaisonner. Donc ces olives assez amères, comme disait Hint tout à l'heure. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, ça fera partie de quelques petites choses que je rapporterai d'ici.
Avec l'olivier, peut-être.
Avec l'olivier, je vais avoir plus de mal à le faire pousser à Paris.
On va le laisser et il aura plus de mal à pousser à Paris. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Cuisine patrimoine, la cuisine en héritage, est-ce que cela vous parle à vous aussi? Est-ce une histoire que vous souhaitez partager et conter à votre tour? Dites-nous tout sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp 33 1 84 22 79 20. Vous connaissez le numéro, alors n'hésitez surtout pas à l'utiliser puis à nous écrire des messages et des recettes que nous pourrons partager à notre tour. Merci beaucoup Cécile Bonici qui a réalisé ce Goût du Monde que vous pouvez à votre tour aimer, partager, déguster autant qu'il vous plaira. Merci beaucoup Guilhem Delteil.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Hint. Et on vous retrouve très bientôt Guilhem.
Et tu me ramèneras un peu des olives.
Oui, c'est ça.
Avec plaisir, je note.
On fait des commandes. Je vous donne quant à moi rendez-vous la semaine prochaine. Même table, même heure. Prenez surtout bien soin de vous. Tout de suite, le journal sur RFI. وشوي لو حلو